les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville.
L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur la web radio du congrès de la mission laïque française à Deauville. Un congrès qui a pour thème cette année une pédagogie laïque pour un monde interculturel. Je suis Camila Garcia du lycée français Molière de Saragosse en Espagne. Nous recevons dans cette émission Joseph González, chef d'établissement de l'école internationale du Canada, Toronto, Brigitte Pierra, responsable de veille éducation numérique, Alexis Kaufmann, professeur de mathématiques au lycée Victor Hugo de Florence. Nous irons ensuite en Espagne avec Ramon du lycée Marguerite d'Ursenar à Reus qui nous parlera de la web radio dans son établissement. Et finalement, on recevra Ange Ansour, directrice du programme de Saint-Venturier.
Les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville. L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Le premier invité de cette émission, Joseph González, qui est venu présenter le plurilinguisme, internationalisme et interculturalité, va être interviewé par Jane de l'école internationale de New York et lui Edouard au lycée Gambier de Lisieux.
Bonjour Joseph González, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Donc vous êtes le chef de l'école internationale du Canada à Toronto.
Voilà.
J'aimerais savoir donc, comment vous gérez les différences culturelles dans votre établissement.
Ça c'est très très important, justement le concept d'interculturalité. C'est-à-dire, dans mon établissement, il y a une quarantaine de nationalités différentes avec des personnes qui viennent de partout dans le monde, du monde arabe, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Japon, de la Chine. Alors, c'est pas question, on doit le gérer. On peut pas ne pas le gérer. Alors ça, c'est très important. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. C'est surtout être dans un esprit de respect et d'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est d'apprendre les uns des autres. Pour moi, c'est ça ce qui définit le concept d'interculturalité. Dans notre école, nous essayons de faire ça exactement.
Donc, mais pour vous, une culture différente, c'est une langue différente ou y a-t-il des facteurs différents?
C'est une langue différente, mais la langue est la porte à un monde très 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 différent d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de laïcité en français, le mot laïque, le mot laïcité, ça existe en français, ça existe dans d'autres langues aussi, mais le sens est différent, la signification est différente. C'est-à-dire que chaque langue nous apporte une vision très très particulière du monde. Et vous, si vous êtes bilingue ou trilingue et vous parlez des langues différentes, vous savez que quand vous parlez dans une langue où vous comportez d'une certaine manière, dans une autre langue, on parle, on se comporte d'une manière différente. Alors la langue, elle est, je dirais, la porte à une culture et même à une façon de voir différente, spécifique, précise du monde.
Alors, est-ce qu'une éducation interculturelle aide vos élèves à vivre dans une société internationale?
Sans doute. Et il faut remarquer ça parce que il faut dire que si on pense à, je dirais par exemple, au milieu professionnel de nos jours, la plupart de, je dirais même de vos parents, des personnes que vous connaissez, tout le monde de nos jours, presque tout le monde travaille dans des environnements interculturels. Et quand on fait de la recherche à l'université, quand on travaille dans une société, dans une banque, normalement, tu travailles côte à côte, tu travailles à côté des gens qui provenant de beaucoup, beaucoup de pays différents. C'est pour ça que l'interculturalité à l'école est fondamentale, parce qu'après, au milieu professionnel et au milieu personnel, ça va être fondamental pour les années à venir.
Alors, comment les enjeux de notre société sont abordés dans votre école?
Il y a beaucoup d'enjeux, et je pense surtout à une éducation internationale. Et nous, en tant que Toronto French School, l'école internationale du Canada, pour nous, le mot internationalisme est très, très important. C'est surtout faire comprendre à nos élèves que être citoyen du monde est fondamental pour leur développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses et on n'a pas le temps de discuter le détail. Mais par exemple, il y a des enjeux internationaux. Même les Nations Unies ont identifié une vingtaine de thèmes qui sont fondamentaux pour l'avenir du monde. Je parle par exemple du problème de l'eau potable, de la question de l'égalité homme-femme, la question du changement climatique. Alors il y a des thèmes qui sont très très importants et qui ont été déjà identifiés par les Nations Unies, et c'est ça qu'on doit faire à l'école. C'est ça qu'on fait à notre école, parce que c'est ça c'est ça où nos élèves peuvent intervenir et changer un peu l'avenir de notre société.
Alors, vous avez des élèves qui ont appris de façon différente de tous les côtés du monde. Alors, comment vous faites pour qu'ils comprennent tous la façon que vous apprenez à l'école ?
Il y a tout un processus d'apprentissage, tout un processus de... voilà, quand ils arrivent, on leur explique un petit peu la philosophie de l'école. Surtout aussi parce que quand on parle avec les familles, quand on parle avec les élèves, avant d'arriver, on leur dit exactement ce que notre école représente. C'est-à-dire, notre école a une personnalité très très forte, avec un projet d'établissement très clair, qui s'appuie sur l'ambition académique, mais aussi sur la formation citoyenne, et la formation citoyenne avec une perspective internationale. Alors déjà, nos familles, les familles qui arrivent, savent que ça, c'est le projet de notre établissement, c'est la philosophie de notre école. Et c'est comme ça qu'on les attire, parce qu'ils aiment ça. Alors nos élèves sont vraiment prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils savent le faire dès le début, mais ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils veulent apprendre à devenir des citoyens mondiaux, des citoyens de la planète.
Merci Joseph Gonzalez. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement de l'École internationale du Canada à Toronto. Merci.
Merci à vous.
Merci Jane, merci Edouard.
Et voilà. Le lycée Marcel Gambier participe aux premières rencontres internationales de la web radio scolaire de la mission laïque française.
Notre deuxième invitée aujourd'hui est Brigitte Pierra, responsable de veille éducation numérique, qui va être interviewée par Oscar de l'École internationale de New York et Rally du lycée Ossui Jean Charcot d'Al-Jadida.
Bonjour Brigitte Pierra. Vous animez aujourd'hui un atelier nommé « Veiller et s'informer pour se former à l'EMEI ». Et Oscar et moi allons vous poser quelques questions.
Pour notre première question, nous voulons vous poser... Alors, on vous demande si vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est l'EMI.
Alors, concrètement, l'EMI, il y a des définitions qui sont bien claires et ça va être permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication. Entre autres, former les cyber-citoyens éclairés de demain. Donc, si ça ne vous parle pas, ça peut être intéressant pour vous de vous expliquer que l'éducation aux médias et à l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la présente, elle n'est pas née d'aujourd'hui, mais on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est très très important par rapport à la masse d'informations que l'on trouve, d'avoir un regard critique sur les sources d'informations que l'on trouve. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, tout ce vocabulaire autour de l'information, et ça va être hyper hyper important tout au long de votre vie, tout au long de votre scolarité, d'apprendre à exercer un jugement critique, un regard critique sur la masse d'informations qui vous arrivent. Et puis également par rapport aussi, je suppose que vous allez voir des vidéos sur YouTube, par exemple. Eh bien, vous savez très bien que quand vous regardez une vidéo, derrière YouTube, vous propose directement une autre vidéo qui va être calquée sur vos choix. Eh bien, l'idée de l'éducation aux médias à l'information, ça va être de vous permettre de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous arrive, par rapport à toute cette masse, et d'être capable de faire des choix réfléchis et éclairés.
Du coup, en quoi consiste clairement la veille ?
Alors la veille, c'est encore autre chose, mais ça rejoint l'éducation aux médias et l'information, puisque quand on est dans une recherche, dans une démarche de recherche et donc de recherche d'information, eh bien, on a un objet à chercher sur lequel il faut enquêter, trouver des choses, trouver des renseignements, et donc on va faire appel à tout un processus qui est de je vais chercher, donc soit par un moteur de recherche, soit dans une encyclopédie papier, je vais prendre tout ce qui est à ma disposition pour trouver l'information, je vais questionner mon sujet, tout seul ou avec mes camarades. Avec mes camarades, c'est toujours mieux parce qu'on est dans une logique de contribution, de coopération, et je confronte mes points de vue. Et puis vous pouvez aussi vous partager le travail. Chacun cherche dans une direction, l'autre cherche dans une autre direction, et c'est toujours enrichissant de travailler en mode collaboratif. Et une fois que vous avez trouvé l'information, eh bien, va falloir la digérer. Vous posez aussi, encore un petit peu avant, est-ce que l'information, les sources d'information que j'ai trouvées, est-ce qu'elles me paraissent fiables, est-ce qu'elles me paraissent pertinentes, et après en faire quelque chose. Et vous posez la question, c'est donc j'avais cette recherche à faire, et déjà est-ce que c'est moi qui avais une recherche volontaire à faire, ou est-ce que c'est mon professeur qui m'a demandé, donc qu'est-ce que les attentes du professeur également, et derrière vous allez devoir produire un exposé ou un dossier, ce genre de choses. Et donc toute cette démarche-là de questionnement de l'information, ça va être, vous allez le retrouver dans la démarche de veille, sauf que dans une démarche de veille, on va plus loin que le simple recherche d'information.
Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous animez un atelier aujourd'hui de 11h à 12h15. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci Oscar, merci Rally pour votre interview.
Il liceo Victor Hugo di Firenze partecipa ai primi incontri internazionali della web radio scolastica della mission laïque française.
Notre troisième invité aujourd'hui est Alexis Kaufmann. Vous allez être interviewé par lui du lycée français Molière de Saragosse en Espagne et Florian du lycée Gambier de Lisieux.
Bonjour.
Bonjour Alexis Kaufmann, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Victor Hugo de Florence et vous êtes aussi l'organisateur d'un hackathon, c'est-à-dire une programmation informatique collective avec des jeunes collégiens sur le logiciel Scratch.
Qu'est-ce que le logiciel Scratch ?
Le logiciel Scratch est un logiciel de programmation graphique et par bloc. C'est-à-dire qu'avant Scratch, il y a vraiment un avant et un après Scratch dans l'initiation à la programmation. Avant, c'était vraiment du code pur et dur, c'est-à-dire du texte en blanc sur du fond noir, comme on peut le voir un petit peu parfois sur des copies d'écran de geeks. Et est arrivé à ce logiciel qui, tout d'un coup, plutôt que justement écrire du texte sur des lignes de code, là, tout d'un coup, déplacer des blocs, c'était beaucoup plus graphique, c'était beaucoup plus ludique, on pouvait se l'approprier beaucoup plus facilement, même au primaire. Hein. Ça a ouvert les portes de l'initiation à la programmation et à l'algorithmique à l'école, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué, c'était plus sévère, plus austère, c'était moins drôle, moins fun, etc.
Et pourquoi avoir choisi ce logiciel en particulier ? C'est plus facile à comprendre pour les élèves
ou... Ce logiciel a été conçu par des profs au MIT, aux États-Unis, à Boston. Donc il y avait tout de suite une idée que le public allait avant tout être des enfants, des élèves qui allaient découvrir l'informatique.
Et quels effets l'utilisation de Scratch peut avoir sur les élèves ?
Ah, c'est une excellente question. De très bons effets. Ils peuvent par exemple faire des mathématiques sans s'en apercevoir. Ça c'est assez sympa parce que si on a besoin... par exemple, moi je propose un hackathon de création de jeux vidéo. Donc pour créer un jeu vidéo, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de variables pour le score, les points de vie, les déplacements, les angles, les tirs, les ennemis, etc. Et tout ça, c'est compliqué. On a besoin aussi de hasard pour que les ennemis soient de vrais ennemis. Donc en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Quand on crée un ennemi, il va se déplacer tout seul ou il va se déplacer vers notre personnage, etc. Tout ça, c'est compliqué à mettre en place. Tout ça, c'est des mathématiques, parce que ce sont des déplacements. C'est du hasard, c'est des variables aléatoires, c'est apparition un peu au hasard. Les déplacements, est-ce que ça va être à une certaine vitesse, etc. Tout ça, ça se programme et ça se réfléchit en amont, c'est-à-dire avant. C'est compliqué. Et donc, c'est faire des mathématiques, mais dans le cadre d'un projet pour créer le plus beau jeu ou le plus plaisant jeu vidéo qui soit.
Pourquoi aujourd'hui initier les jeunes à la programmation est essentiel ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est on nous dit les métiers de demain, les métiers du 21e siècle ne pourront pas se passer d'usage de l'informatique, etc. Donc bon, il y a toute une catégorie. On a besoin de développeurs, ça c'est clair, on va avoir besoin d'informaticiens. On va aussi avoir besoin, mais ça c'est la personne qui m'a précédé en a parlé, de personnes éclairées et qui vont être capables de comprendre un petit peu ce que les autres ont programmé. Il y a un roman de science-fiction qui dit « programme ou sois programmé ». C'est-à-dire, si jamais vous ne comprenez pas comment fonctionnent, comment ont été programmées les machines, elles risquent de prendre le contrôle avec tous les problèmes et tous les risques que cela suppose.
À votre avis, la programmation est-elle assez développée au collège ou au lycée ?
Il y a un grand boom ces dernières années, donc il y a une grosse évolution. Maintenant, elle est vraiment dans les programmes de mathématiques, par exemple au collège. Scratch fait partie des programmes de mathématiques, également en technologie. Donc il y a une grosse évolution et ça va s'amplifier encore, par exemple avec le nouveau baccalauréat que vous allez subir dans quelques années.
Et finalement, quels résultats avez-vous obtenu pendant ce concours collaboratif de création de jeux vidéo où vous prétendez obtenir ?
Des résultats assez extraordinaires, c'est-à-dire que si vous allez sur le site où les jeux vidéo ont été déposés, et ben les jeux vidéo sont jouables, sont agréables, sont sympas. Franchement, il y en a le parce qu'on a fait ça sur un mode un peu concours. Celui qui a eu le premier prix, c'est vraiment un jeu qui est un vrai jeu, quoi, qui est tout à fait jouable, qui est compliqué. Il y a différents niveaux, il y a un objectif, il faut arriver. On est un poisson, il faut arriver à atteindre un trésor, etc. Et tout ça en 6 heures, seulement en 6 heures. Ça aurait été impossible avant des logiciels comme avant l'apparition de Scratch. Ça, c'est possible de le faire très rapidement. Et moi, je trouve ça hyper motivant. Même moi, je m'amuse à faire des jeux en Scratch, par exemple. Alors donc, j'imagine, vous, comme ça doit être motivant et intéressant.
Merci Alexis Kaufmann d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de discuter avec vous. Je vous rappelle que vous êtes professeur de mathématiques au lycée Victor Hugo de Florence.
Voilà, merci beaucoup.
Merci Louise, merci Florian et merci aussi à vous Alexis. Sachez que Louise et Florian ont regretté de devoir quitter votre atelier pour venir préparer son interview.
Le Collège Marc-Arthur-Sonard de Reus, réseau MLF, représente l'Espagne à Caen. Vous participez avec nous aux premières rencontres internationales de web radio scolaire.
Maintenant, on accueille Ramon du lycée Marc-Arthur-Sonard de Reus en Espagne qui va vous parler sur la pratique de la web radio dans son établissement. Bonjour Ramon.
Bonjour Camilla. On travaille avec le professeur d'histoire géo, Olivier Kosinski. Toute ma classe de 4e participe. Aussi, la plupart du secondaire et le CM2. Des fois, on fait des émissions en anglais avec Elisabeth Preslan, notre professeure d'anglais. Cette année, on a un échange avec des élèves de Rhode Island aux États-Unis. On va travailler avec eux pour faire une émission. Le dernier trimestre, on a étudié la Révolution française. Et pour approfondir le thème, on a fait une émission où on jouait une personne qui a vécu les événements. Par exemple, moi j'étais bailli, député du Terceta. Cette année, nous avons un partenariat avec Equinox, la radio française de Barcelone, et nous leur envoyons de temps en temps des chroniques. Nous préparons nos émissions pendant la classe. C'est un travail obligatoire. Je pense que ça serait une bonne idée d'organiser un club optionnel pour les élèves qui se sentent motivés pour continuer à faire de la web radio. La web radio est un projet très intéressant car elle te permet d'apprendre d'une manière différente. C'est-à-dire, tu ne dois pas apprendre un texte par cœur, mais tu dois faire des phrases pour que les auditeurs comprennent, travailler en équipe et comprendre le texte.
Merci Ramon. Je vous rappelle que vous pouvez écouter leurs émissions sur www.webradiofreuse.blogspot.com.
Nous sommes les élèves du lycée franco-libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli. Nous sommes fiers et ravis de participer aux premières rencontres internationales de la web radio scolaire de la mission laïque française. نحن طلاب المدرسة الفرنسية اللبنانية ألفونس دو لامارتين من طرابلس وبكل فخر واعتزاز نشارك باللقاء العالمي للويب راديو المدرسي ضمن مؤتمر البعثة العلمانية الفرنسية.
Pour finir, nous recevons Angin Sour qui va être interviewé par Jeanne du lycée français de Stavanger en Norvège et Robin du lycée Jean Charcot d'Al-Jadida au Maroc.
Bonjour Ange Ansour. On rappelle que vous venez d'animer une conférence concernant les partenariats recherche pratique pour construire l'esprit critique.
Quel est le but de votre association, les Aventuriers ?
Alors, les Aventuriers ne sont pas une association, c'est un programme développé par le Centre de recherche interdisciplinaire afin d'implémenter dans les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée, l'éducation par la recherche, la formation des enseignants également, leur développement professionnel et de mener des projets de recherche, des enquêtes sur le numérique éducatif et pour développer le modèle de l'éducation par la recherche.
Quelles raisons vous ont poussé à créer ce modèle ?
Alors, ça a commencé par une rencontre assez intéressante entre moi, à l'époque, qui était enseignante dans ma classe, et le directeur du CRI, François Tadéhi. On s'est rendu compte que le CRI faisait de l'éducation par la recherche pour les étudiants du supérieur, les étudiants en licence, en master, en doctorat, et que je le faisais à ma petite échelle avec mes petits élèves de CM1 et de CM2. Et on s'est dit, mais en fait, c'est absurde de isoler les écoles des universités. Pourquoi nous n'allons pas inventer un dispositif qui permet d'ouvrir les écoles et les universités les uns aux autres ?
Comment l'avez-vous mis en place ?
Alors, c'est très simple. On a commencé à expérimenter dans des ateliers périscolaires. Pourquoi ? Parce que c'est plus éthique. Parce qu'on ne savait pas si une fois à l'échelle, ça veut dire avoir disséminé dans plein d'endroits, ça allait marcher ou pas. Et le périscolaire, comme il n'y a pas les enjeux d'échec et de réussite, nous permettait de prototyper. Et une fois qu'on s'est rendu compte en une année que ça marchait bien, et bien l'année d'après, on a publié des appels à projets dans toute la France au départ, pour que les enseignants puissent répondre et mobiliser la communauté de recherche et lancer les projets dans les classes.
A-t-elle des résultats concluants ?
Alors, on a eu un premier rapport de recherche, d'évaluation, et là, il y a une deuxième enquête d'évaluation qui est sur le dispositif. Donc, pour avoir des résultats scientifiques, il faut attendre août 2018. Mais les enquêtes informelles, les entretiens, les questionnaires adressés aux élèves et aux enseignants montrent que, premièrement, ça augmente l'appétence des élèves pour apprendre, pour s'amuser en classe. Ça donne du pouvoir aux enseignants pour enseigner autrement, ne pas dire qu'on peut faire toujours la même chose. Et troisièmement, effectivement, les connaissances des élèves sont plus précises et plus ambitieuses.
Selon vous, en quoi est-il important d'avoir ou de développer un esprit critique ?
Ah, il me semble que sans esprit critique, nous sommes que des machines qui font que répéter. Et ça serait bien triste. L'esprit critique nous permet toujours de faire ce pas de côté, de questionner, de se demander d'où est-ce que ça vient, qui parle, d'où est-ce qu'il parle, pourquoi, et surtout, surtout, de s'affranchir du pouvoir des mots. Alors là, je vous parle en tant que traductrice, parce que c'est mon vrai métier, et les mots s'imposent, et on a l'intention de leur obéir. Mais quand on se met à les questionner, pourquoi on dit ça ? Quel sens ? Parce que c'est polysémique, etc. On devient autonome, donc un vrai citoyen.
Quelles stratégies pratiques peuvent être mises en place pour développer l'esprit critique ?
Alors, tout simplement, ce que je viens de dire, c'est s'initier aux méthodes, enjeux éthiques de la recherche est une bonne garantie pour développer l'esprit critique dans le cadre scolaire. Parce qu'on se rend compte que des différences entre opinion et savoir, mais également entre savoir et connaissance. C'est pas parce que ça existe que ça devient mien. Il faut que j'opère un vrai travail sur le savoir pour que ça devienne une connaissance, donc quelque chose que je peux utiliser dans un autre contexte. Donc voilà, d'où les outils que je parlais ce matin, comment on crée un savoir, comment on le valide, comment on le fait circuler, et que pour enfin avoir un esprit de jugement personnel, et surtout, ça développe la créativité, contrairement à ce qu'on croit.
D'après vous, quels gestes peuvent faire les parents à la maison pour contribuer au développement de l'esprit critique ?
Laisser les enfants continuer à poser des questions. Ne pas accepter que le monde est naturel. Rien n'est naturel, rien ne vient de soi. Même la manière avec laquelle on joue dans une cour de récré, ce n'est pas naturel. Donc accepter qu'on va avoir toujours un regard d'étonnement. Ne pas accepter que les choses viennent d'elles-mêmes.
Un grand merci, Madame Mansour. On rappelle que vous avez animé une conférence sur l'esprit critique à 8h45.
Merci à vous et bravo pour votre professionnalisme.
Merci.
Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous nos invités. Merci aussi à Jane et Edouard, à Oscar et Rally, à Louis et Florian, à Ramon et à Jeanne et Robin. Nous remercions aussi notre technicienne Ginevra. C'était Camilla du lycée français de Saragosse en Espagne. Nous nous retrouvons demain à 10h30 pour une nouvelle émission de la web radio du congrès de la mission laïque à Deauville.
Première rencontre internationale de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville.
L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.